Gosse.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, et si vous vous réveillez à l'instant, merci d'avoir choisi un autre jour est possible pour commencer cette journée, la journée du jeudi 11 février 2016. Dans un instant, on retrouve notre tête chercheuse spécialiste de Tintin, Renaud Natiez, pour notre série qui accompagne le feuilleton Les Cigares du Pharaon. Le feuilleton, c'est tous les soirs à 20h30, mais vous pouvez rattraper les épisodes précédents en passant par le podcast. Et notre série Tintin encore et toujours, c'est dans un instant le 4e épisode avec Renaud Natiez. En deuxième partie, je reçois Benoît Peters, qui enseigne depuis peu à l'université Lancaster la Graphic Fiction and Comic Art, c'est-à-dire qu'il enseigne Tintin à la fac. Comment on enseigne Tintin? Il nous dira tout aux alentours de 6h15. Merci de vous réveiller avec France Culture.
Allô? Oui, chef. J'ai remplacé la lettre du docteur par une autre en imitant son écriture. Elle disait que c'était Tintin lui-même qui était fou.
Tintin, encore et toujours. Une série avec Renaud Natiez, auteur d'un essai qui vient de paraître aux Impressions Nouvelles, Le mystère Tintin, les raisons d'un succès universel. Et aujourd'hui, 4e épisode, un objectif moral clair. Bonjour Renaud Natiez.
Bonjour.
Il a donc un objectif moral dans chaque aventure de Tintin.
Ah, je pense que chaque aventure de Tintin, oui. Vous avez dans Tintin un mobile essentiel qui est la victoire du bien. Ça, c'est le mobile, je dirais, transversal. Tintin, idéologie Boy Scout, il veut faire triompher le bien sur le mal et il veut faire gagner les bons sur les méchants. C'est une espèce de justicier, de redresseur de tort. Et il veut... alors c'est très très sommaire au début dans Tintin en Amérique, c'est éliminer les bandits, il est missionné pour ça. Et puis après, ça devient de plus en plus sophistiqué. Le bien pouvant prendre la forme d'une quête scientifique. Hein. Deux exemples, l'étoile mystérieuse. Hein. On recherche un métal complètement inexistant sur Terre, hein, qui est tombé dans l'Arctique avec l'aérolite. Et puis, évidemment, l'aventure lunaire, hein, c'est une quête scientifique, mais c'est une forme de bien. Je dirais que derrière le mobile transversal du bien, vous avez des mobiles secondaires. Il y en a, je pense, 4. Le premier mobile secondaire, c'est le reportage. C'est ça qui fait la raison d'être des premiers albums. Il n'y en a pas d'autres.
Oui, est envoyé en reportage. Même si on ne voit jamais Tintin écrire une moindre ligne.
Si, on le voit dans Tintin au pays des Soviets et il est dans sa chambre d'hôtel, je crois, et il écrit un petit peu. Et puis dans l'oreille cassée, et quand il est surpris dans sa baignoire qu'il entend qu'il y a eu un vol de fétiches au musée ethnographique, il court au musée et il dit chic, un beau papier en perspective.
Non mais ce qui est extraordinaire avec Tintin, c'est qu'il est plus le sujet d'articles paraissant, généralement à la fin de l'aventure, que lui-même auteur d'un article paraissant.
Tout à fait. Oui. On ne connaît pas d'écrit de Tintin. Ça c'est vrai.
Mais l'objectif est moral à chaque
Alors,
fois.
Alors, je disais donc le premier derrière le mobile transversal moral, vous avez le reportage qui peut être un mobile secondaire. Le mobile le plus répandu, c'est la résolution d'une énigme, d'un mystère que vous retrouvez dans beaucoup d'albums. Hein, le mystère du fétiche, hein, qui a disparu, le mystère de la disparition de l'émeraude de la Castafiore dans les bijoux de la Castafiore. Vous avez la quête scientifique dont on a parlé, et le quatrième mobile, ce serait le sauvetage d'un proche, qui n'existe pas dans la première partie de l'œuvre, mais qui devient le mobile dominant dans la plupart des Tintins, sauver Tournesol dans l'affaire Tournesol ou dans le Temple du Soleil. Hein. Tout l'album, là, il y a une énigme derrière le Temple du Soleil, hein. Il y a l'énigme des explorateurs, etc. Mais après, dans le Temple du Soleil, l'essentiel, c'est de sauver Tournesol. L'affaire Tournesol, c'est de sauver Tournesol également. Hein, ça peut être voilà, ça c'est de plus en plus Tintin s'oriente vers des mobiles d'ordre privé, hein, et de moins en moins dans des mobiles de grande dimension politique ou hein. D'ailleurs, dans les Tintin et les Picaros, hein, qui est le dernier album
achevé,
il a des phrases comme évidemment, on s'en fout royalement de la révolution. Hein. Ce qui l'intéresse, c'est de délivrer, de sortir des geôles du général Tapioca, la Castafiore, Wagner, Irma et les Dupont qui sont emprisonnés. Hein. C'est sauver ses proches. Et puis alors, curieusement, là, je mets toujours à part les deux derniers albums, donc Vol 714 pour Sydney, Tintin et Picaros. Là, vous n'avez plus de mobile. Tintin devient passif. Tintin n'a plus envie de voyager. Peut-être qu'Hergé n'a plus très envie d'écrire. Enfin,
ce qui est extraordinaire, c'est que, normalement, si on a bien compris, Vol 714 pour Sydney, c'est une aventure qui va s'effacer de la mémoire de Tintin. C'est-à-dire, elle n'est même pas inscrite dans son histoire, puisque toute la finesse de ce scénario est qu'à la fin, aucun des protagonistes n'aura souvenir de ce qu'il vient de vivre.
C'est essentiel. C'est Vol 714 pour Sydney a vraiment une spécificité dans toute l'œuvre. C'est le seul album, d'ailleurs, où on n'a pas un point de départ et un aboutissement, puisque les personnages se retrouvent à la page 62 au point de départ, c'est-à-dire
dans un
embarquement pour Sydney.
Ouais. Hein,
ils n'ont pas avancé d'un pouce, et vous avez tout à fait raison, ils ont complètement oublié leur aventure, enfin, sauf les premières pages, hein, qui sont avant le... Parce que ils sont hypnotisés. Il n'y a que Milou qui n'est pas hypnotisé, qui pourrait raconter à la limite l'histoire. Mais les autres, non, ils l'ont oublié complètement.
Est-ce qu'on peut analyser, prendre le recul et essayer de décrypter cette aventure de Tintin, comme s'il marquait le début de la fin?
C'est mon point de vue. Je crois personnellement que dans Tintin au Tibet, en sauvant Chang, c'est mission accomplie, un petit peu. Tintin a sauvé Hergé, en fait. Et dans l'album suivant, donc Les Bijoux de la Castafiore...
On ne bouge pas de Moulinsart, c'est ça l'idée dans Les Bijoux.
On ne bouge pas de Moulinsart. C'est on l'a dit beaucoup, un album pastiche, une autodérision. Beaucoup de tintinophiles adorent cet album. C'est vrai qu'il synthétise toute l'œuvre. Hein, on trouve dans Les Bijoux de la Castafiore absolument tout ce qu'on trouve dans les autres Tintins. La boucle est bouclée. Il arrive à créer un suspense, un mystère aussi fort que dans les autres albums, alors qu'il se passe rien. Il n'y a pas de bandits, il n'y a pas de vraie disparition, ou la disparition qu'il y a, c'est une pie qui a volé l'émeraude de la Castafiore. Il n'y a pas de départ en voyage. C'est vraiment un album atypique. Et pourtant, on y croit tout autant. Mais là, on rejoint le réalisme, la force d'Hergé. On y croit absolument tout autant que dans des albums aussi techniques que Objectif Lune ou que... Et il ne se passe rien. Hergé prend un malin plaisir à lancer des fausses pistes. Hein, toutes les pistes qu'il lance, elles s'avèrent fausses. Et malgré tout, c'est une réussite totale.
Et c'est l'éruption d'une certaine modernité des médias, par exemple, dans Les Bijoux de la Castafiore.
Oui, il y a l'apparition de l'appareil de télévision en couleur, hein, du professeur Tournesol.
Mais aussi de la presse People. Comme si la mission de Tintin, allant à la découverte du monde, allant porter secours à tous les damnés de la Terre, était fini.
Je crois qu'il a tout dit, hein, dans Les Bijoux de la Castafiore. Et je suis un petit peu sévère avec les deux derniers albums, mais beaucoup d'analystes ont dit que ce sont deux albums qui n'apportent rien à la gloire de l'auteur. Je dis pas que c'est deux albums de trop, mais quand on me pose la question souvent, est-ce qu'il faudrait refaire d'autres albums de Tintin après Tintin, je dirais un petit peu par boutade, on l'a déjà fait, on a fait Vol 714 et Tintin et les Picaros. L'œuvre d'Hergé s'est bouclée un petit peu avec Les Bijoux de la Castafiore. Et puis après, on a rajouté un petit peu quelque chose. Mais Tintin n'y croit plus. Les bandits ne sont plus vraiment des bandits. Vous voyez, dans Vol 714, ils sont plus burlesques et ridicules. Rastapopoulos, il est complètement ridicule. Il n'est plus inquiétant comme avant. Hein. Il est tourné en dérision. Les héros eux-mêmes sont souvent un petit peu tournés en dérision. Hein. Ça se voit même dans le graphisme. Dans le graphisme de Vol 714 pour Sydney, la ligne claire disparaît un petit peu. Les sourcils d'Adoc ou de Tournesol, quand ils se mettent en colère, ça devient des lignes brisées. Hergé perd un petit peu sa ligne claire, ça se voit dans le dessin. On est vraiment là avec des et je montrerai un petit peu, c'est la deuxième partie de mon livre, quand on analyse la structure des albums, eh ben on trouve que les deux albums en question n'ont plus du tout la structure canonique. La structure canonique, elle va de Cigare du Pharaon, Lotus Bleu, au Bijou de la Castafiore, et elle n'existe plus. Tous les éléments structurels, les invariants qui existaient, ils disparaissent dans les deux derniers.
Et s'il fallait les résumer, ces structures ?
Oui, le découpage, enfin la structure spécifique de Tintin, c'est tout à fait essentiel et c'est l'objet sans doute de notre émission de demain.
Eh bien, on se retrouve demain pour le cinquième et dernier épisode de notre série Tintin, encore et toujours.
Avec plaisir.
Demain, Renaud Lathiez.
À demain.
Alors j'ai regardé l'album qui donne une nouvelle vie à vos premières aventures. Donc je pense à Tintin chez les Soviets, Tintin au Congo et Tintin aux États-Unis, je crois.
En Amérique.
Oui, c'est ça. Alors je suis frappé par une tendance politique que vous aviez qui peut-être n'est plus celle que vous avez aujourd'hui. Vous étiez particulièrement raciste à l'époque. Tintin chez les Soviets, c'était l'anticommunisme primaire. Oui. Tintin au Congo, alors là, c'était le petit noir. Et vous preniez pour un vrai blanc.
Oui, bien sûr. Mais je pense que je ne me singularisais pas. Enfin, je crois que tout le monde, à l'époque, était d'abord anticommuniste, ou plutôt, plus exactement, dans le cas du XXe siècle, anti-bolchevique, l'homme au couteau entre les dents.
C'était en 1929.
En 1929, n'oublions pas. Et quant au Congo, mais il allait de soi. Ça paraissait aller de soi que de toute éternité, les Noirs étaient faits pour servir les bons Blancs qui étaient là-bas. Enfin, nous envoyons d'ailleurs de bons missionnaires, des hôpitaux, des chemins de fer, que sais-je encore, tous les bienfaits, entre guillemets, de la civilisation. Donc j'étais colonialiste, comme tout le monde était colonialiste. Il y avait une loterie coloniale en Belgique, il y avait votre exposition coloniale à Paris. Tout ça allait de soi, semble-t-il. En toute honnêteté, bien entendu.
Alors ce qui est important, c'est de savoir ce que vous êtes aujourd'hui. Si vous avez changé.
Ah, mais évidemment.
Si vous êtes transformé. Ce sont les événements qui vous ont changé ou votre nature était différente?
Peut-être ma nature. Les événements m'ont fait changer. Enfin, puis j'ai évolué, comme tout le monde évolue. Hein?
Mais vous avez été sage, quand même, avec ce personnage. Parce que vous auriez pu vraiment le transformer et le rendre tout à fait impopulaire. Vous auriez pu le charger d'ambition politique, d'engagement très précis.
Oui.
D'abord, vous lui avez conservé son âge.
Oui, en effet, ça ne peut pas changer dans cet univers-là. L'âge ne compte pas, l'âge est toujours le même, bien sûr, c'est un univers, c'est un espace-temps tout à fait différent d'une autre. Hein. Mais non, je n'ai jamais, sauf au début, donc il a pris position contre les bolcheviks de l'époque. Par après, aussi, dans le Lotus Bleu, il a pris parti pour la Chine contre l'agression japonaise. Et après ça, tout de même, il s'est petit à petit détaché de la politique et est resté, un observateur un peu amusé, un peu sceptique de tout ce qui se passe autour de lui.
Et quelles idées politiques seriez-vous tenté de lui donner aujourd'hui ? Pourrait-il, par exemple, être un bon Européen ? Nous sommes à Bruxelles, dans l'année de l'Europe.
Ah oui, là, je crois qu'il pourrait être un excellent Européen, bien sûr.
Alors, qu'est-ce que c'est, un excellent Européen ?
Ah, voilà, c'est quelqu'un qui ne pense plus aux frontières, ni linguistiques, ni aux frontières tout court. Enfin, c'est quelqu'un qui voit plus grand. La France, comme la Belgique, ont été composées d'abord de petits villages, et puis des petits villages se sont unis, et puis finalement, ça a fait un pays. Et je crois que pour l'Europe, ça pourrait devenir la même chose, avec la difficulté de la langue.
Un autre jour est possible. Votre réveil culturel, tous les jours, de 6h à 6h30, par Toufik Hakem. Deuxième partie, l'invité du jour.
Et mon invité ce matin, c'est bien sûr Benoît Peters. C'est ce qu'on peut faire toute une semaine sur Tintin sans Benoît Peters, le tintinologue le plus connu. Bonjour Benoît Peters.
Bonjour Théophile.
Et en plus, depuis quelques temps, on a appris que vous allez enseigner à l'université de Lancaster un cours de Graphic Fiction and Comic Art. Ça veut dire quoi ?
Quel honneur, hein.
Ouais, c'est bien.
C'est venu vers moi, j'ai participé à un festival de bande dessinée dans la région des Lacs, dans le nord de l'Angleterre, tout près de la ville de Lancaster, et on m'a demandé si ça m'intéresserait de venir comme visiting professor pour évoquer la bande dessinée. Alors bien sûr, je l'évoquerai en tant que Français, nourri à la bande dessinée française et belge, ayant une ouverture assez large sur d'autres traditions de bande dessinée.
Vous avez même écrit sur Taniguchi.
J'ai écrit sur Taniguchi, sur Spiegelman, sur Chris Ware, sur d'autres. Mais c'est vrai que ma première nourriture, c'est la bande dessinée franco-belge, et j'essaierai aussi de parler, notamment d'Hergé, aux étudiants et aux collègues de Lancaster University à partir de l'automne prochain.
Alors, comment enseigner Tintin à ceux qui ne sont pas nés avec ?
D'abord, les Anglais connaissent Tintin depuis très longtemps. Tintin aussi connaît l'Angleterre depuis très longtemps. Il y est venu en 37 pour l'île Noire. Mais les traductions anglaises sont anciennes et Tintin est aujourd'hui très présent. Il y a encore actuellement une exposition à Londres qui se tient sur Tintin. Donc, il s'agit peut-être de faire découvrir l'œuvre dans son histoire, dans sa naissance, dans son contexte, parce que c'est une chose de lire les albums en couleur, etc., et une autre chose de plonger dans les racines de cette œuvre, dans ce qui a permis à Hergé d'évoluer, de se transformer, d'enrichir son langage graphique, son langage narratif, et là je crois que ça devrait intéresser les auditeurs. Et puis je mettrai en relation évidemment Hergé avec toute la tradition qu'il a suivie. Il ne s'agit pas de faire un cours d'histoire de la bande dessinée qui viendrait parler d'un âge d'or comme si le meilleur de la bande dessinée était derrière nous. Il s'agit aussi d'être en prise sur ce qui se fait de plus vivant en Grande-Bretagne, aux États-Unis et sur le continent.
Depuis le début de cette semaine, il y a un feuilleton Tintin sur France Culture, une nouvelle production, Les Cigares du Pharaon. Benoît Peters, est-ce qu'on peut dire que c'est le premier album sérieux d'Hergé concernant Tintin ? Est-ce qu'on peut dire que c'est l'album de l'installation d'un personnage récurrent ?
Sérieux, je ne sais pas, c'est un album quand même assez fantaisiste, assez drôle, mais c'est le premier album vraiment narratif. Parce que les trois premiers, Tintin au pays des soviets, Tintin au Congo et Tintin en Amérique, ce sont des sketchs. Ce sont des sketchs qui doivent, des scénettes qui doivent énormément au cinéma, qui avaient nourri Hergé, et qui sont dans la forme du feuilleton, c'est-à-dire des petites séquences de 2 pages, 4 pages, 6 pages. Avec Les Cigares du Pharaon, on a la mise en place d'un feuilleton. Et ce feuilleton, c'est le développement du romanesque chez Hergé. Alors un développement comme ça, encore un petit peu chaotique, mais bon, même de grands récits feuilletonesques. Pensons à Alexandre Dumas, ont quelquefois quelque chose de chaotique aussi. Hergé s'essaye au récit, il s'essaye au fantastique, il s'essaye à l'imaginaire. On retrouve le signe du pharaon kiosque un petit peu partout à travers l'histoire. On a une quête, on est sur la piste de trafiquants, on a des personnages qui commence à exister à côté de Tintin. Bon, c'est les Dupont-Dupont qui ne s'appellent pas encore les Dupont-Dupont. On a tout au début de l'histoire un savant, Philémon Cyclone, qui est comme une lointaine préfiguration de Tournesol. On a un personnage d'abord mystérieux, trouble, un producteur de cinéma, mais dont on va découvrir qu'il joue un rôle assez dangereux par rapport à Tintin, Rastapopoulos, ouais, qu'on retrouvera. Donc voilà, c'est vraiment un album de mise en place. Alors ce qui est très curieux avec Les Cigares du Pharaon, c'est qu'on a deux versions tout à fait différentes. Il y a la version noir et blanc de 33, avec un dessin d'une extraordinaire liberté, avec plein de séquences fantaisistes et oniriques. Et puis, on a l'album tardivement mis en couleur, puisque c'est le dernier des Tintins d'avant-guerre à avoir été mis en couleur. En 55, il est paru. Et là, c'est la patte des studios, et je dirais que c'est classicisé, on pourrait même dire un peu refroidi. Je garde une tendresse particulière, vous l'avez compris, pour la version noir et blanc. Je pense qu'elle nous dit tout ce qu'il y avait de profondément libre, personnel, jubilatoire dans le dessin du premier Hergé. Un dessin qui ne se soucie pas de correction, mais qui cherche d'abord la drôlerie, qui cherche la liberté du pinceau. Il y a là, peut-être, chez le premier Hergé, quelque chose qui se perdra. Il deviendra un peu plus sérieux.
Diriez-vous, Benoît Peters, que c'est une des bonnes raisons pour jeter un œil sur ce que publie en ce moment Kesterman, c'est-à-dire le feuilleton, c'est-à-dire les histoires telles que parues dans la presse à l'époque?
Oui, j'aurais du mal à vous dire le contraire, puisque je collabore à ce grand projet éditorial, Hergé, le feuilleton intégral. On republie les versions Petit 20e, les versions Journal le Soir, les versions Cœur Vaillant, les versions Journal Tintin, de toutes les histoires.
Cette fameuse version des Cigares du Pharaon.
Et alors, ce qu'on retrouve, par exemple, et qui est formidable, c'est toutes les couvertures qu'Hergé dessinait pour le petit 20e. C'est aussi le jeu avec le lecteur. Il y avait le mystère Tintin. On posait des questions au lecteur, on publiait certaines des lettres de lecteurs qui disaient ce qui, selon eux, allait arriver dans l'histoire. Évidemment, Hergé se plaisait à déjouer leurs prédictions. Et j'aime beaucoup ce surgissement du feuilletoniste chez Hergé, ce plaisir de raconter sans trop savoir où on va. On a quelquefois l'image comme ça de Hergé comme le parangon de la bande dessinée classique. On oublie d'abord la drôlerie d'Hergé, parce que Hergé est constamment drôle de manière parfois raffinée, parfois de manière burlesque. Il y a vraiment du burlesque pur dans la manière dont les Dupont se cognent, s'entrechoquent, etc. Les facéties de Milou, mais il y a aussi le plaisir pur du romanesque où on se soucie pas trop encore de logique, de vraisemblance, de crédibilité du décor. On se soucie d'abord d'entraîner le lecteur dans ce monde fascinant de l'Orient et de l'Extrême-Orient. Alors il y aura évidemment un tournant qui se passe au sein même de cette histoire, puisque ce qui part dans la fantaisie avec le cigare du pharaon va s'achever dans le sérieux, l'histoire et l'émotion avec le lotus bleu qui en est la suite directe. Donc c'est vraiment un moment où Hergé bascule. Mmh. Il bascule à travers une rencontre qu'on connaît, d'un jeune étudiant chinois, et là, Kong. Il se passe quelque chose, c'est-à-dire que autant l'Égypte et l'Inde sont décrites dans les Cigares du Pharaon avec une totale fantaisie, ce sont des territoires mythologiques, hop, comme ça, on disparaît dans un tombeau, on se retrouve au milieu de l'océan, on chute en Inde et on rencontre un éléphant et on parle avec l'éléphant, enfin bon, il y a vraiment quelque chose, un univers où tout peut arriver, et dans le Lotus Bleu, au contraire, l'authenticité, la responsabilité, le respect de l'autre, qui sont les valeurs
on peut même rajouter l'engagement politique.
L'engagement politique contre la ligne du journal dans lequel Hergé publiait. Donc voilà, mais il ne faut pas que ce Hergé sérieux, ce Hergé responsable, ce Hergé historien, qui est une source extraordinaire, nous fasse oublier le pur plaisir de raconter, la pure saveur de la fantaisie et de la drôlerie qui faisait partie de lui aussi, et qui serait un versant non réaliste du talent d'Hergé, que quelquefois il a gommé lui-même dans les interviews tardives. Et, on parlait de l'Angleterre tout à l'heure, ben, l'île Noire, on a aussi deux versions, on a même trois versions, la version noir et blanc, la première version couleur, puis la version redessinée à la demande des Anglais pour apporter plus d'authenticité à la couleur locale et plus de contemporanéité, puisque cette version est redessinée dans les années 60.
Toujours avec l'accord d'Hergé, il faut le préciser.
Oui, et sous la direction de ses studios et sous sa direction. Il n'empêche que dès ma première rencontre avec Hergé, avec un peu de l'impertinence de la jeunesse, je lui disais, mais pourquoi vous avez redessiné ça? C'était mieux avant. Il disait, mais c'est plus authentique. Et j'avais le sentiment que ce n'était pas cette authenticité que nous aimions, mais la capacité mythologique, qui est l'égale des premiers films d'Hitchcock, par exemple, les 39 marches, etc. Voilà, j'aime énormément cet aspect-là chez Hergé, et je crois que quelquefois, les gens ont une image un peu austère, de Tintin, et que s'ils relisent ces versions noir et blanc, ou s'ils lisent ces volumes du feuilleton intégral qui vont paraître au fil des ans, ils vont découvrir un autre Hergé caché sous le classicisme.
Plus que ce mur à franchir et je suis libre. Mais comment faire, Milou, si seulement tu pouvais me faire la courte échelle? Milou.
Tintin qui parle, ça bien sûr je fais allusion au feuilleton, une nouvelle production de France Culture et de la comédie française avec l'accord de Boulinsart, Tintin incarné au cinéma, soit par des comédiens, soit par des mélanges de comédiens et de dessins de machines, de logiciels. Benoît Peters, ça vous inspire quoi quand votre héros a une voix, un physique?
J'aime beaucoup l'idée de la radio, comme autrefois du disque, par rapport à Tintin. Parce qu'au fond, on prend un médium, celui de la bande dessinée, qui n'a pas toutes les dimensions, et on traite exactement les dimensions différentes. C'est-à-dire que dans les deux cas, on laisse une place à l'imaginaire. Peut-être que le film se rapproche un peu trop du réalisme. Je crois que la voix, le bruitage, la musique peuvent nous donner un Tintin qui ressuscite en nous les images de l'album que presque tout le monde a lu un jour, mais peut-être un petit peu oublié. On peut rêver. Et de même que quand nous lisons la bande dessinée, nous avons un univers sonore qui est là, mais qui reste disponible pour notre imagination et notre créativité.
Merci Benoît Peter. C'est le moment de passer au questionnaire d'un autre jour est possible. Première question.
De toutes les fleurs du monde, laquelle est votre préférée? Alors, en bon tintinophile, j'hésite entre la marguerite, comme Bianca Castafiore, ou le tournesol, comme ce cher Trifon.
Merci. Deuxième question.
Qu'aimeriez-vous retrouver du temps passé? Voilà, c'est une question philosophique, c'est un abîme. C'est le temps que nous aimerions retrouver avant tout. C'est ce moment où on ne sentait pas à quel point il était précieux.
Vous avez quel âge quand vous avez lu Tintin pour la première fois, Benoît Peters?
C'est difficile à reconstruire, mais c'était avant de savoir lire vraiment que j'ai eu des Tintins dans les mains, vers 4 ou 5 ans. Et le premier album qui m'a bouleversé et frappé, c'est Tintin au Tibet. Voilà. Et puis j'ai toujours lu Tintin. Je ne sais plus quand et comment j'ai pu le lire pour la première fois. J'ai l'impression d'avoir toujours relu. Alors, qu'aimeriez-vous retrouver du temps passé? Ce que les livres nous en donnent, et de ce point de vue-là, Hergé comme Proust sont des résurrections merveilleuses.
Troisième et dernière question.
Quel personnage de BD avez-vous le plus de sympathie? Allez, je vais dire le jeune héros de Quartier Lointain, de Jiro Taniguchi, qui lui aussi retrouve le temps perdu. C'est-à-dire que c'est un homme d'âge mûr qui se trompe de train, qui revient dans la ville de son enfance où il n'était pas allé depuis très longtemps et qui se retrouve dans la peau de l'ado de 14 ans et qui va essayer de corriger le passé en le revivant et de corriger le passé de sa famille. Voilà un héros qui me plaît.
Merci beaucoup Benoît Peters. Eh ben, je vous laisse faire le générique de fin, comme tous les invités du matin dans l'autre jour est possible depuis le début de cette année.
Quelle responsabilité lourde. C'était un autre jour est possible, une émission de Tufi Kakem, le réveil culturel de France Culture pour les lèvres tôt. Et on peut l'écouter en passant par le podcast disponible sur franceculture.fr. Un autre jour est possible, une émission préparée avec Anaïs Isbert, réalisée par Thomas Duterre, avec à la technique Benjamin Vignal.
Vous avez juste oublié de citer Pascaline Bonnet, mais sinon, c'était parfait. Merci Benoît Peters. Tintin, encore et toujours, la suite du feuilleton Les cigares du pharaon, c'est ce soir à 20h30, le 4e épisode, et la suite de notre série demain dans Un autre jour est possible avec Renaud Natiez et deux invités de marque, Johann Gerner et Emmanuel Rabu. Tintin, encore et toujours, je dirais même plus, Tintin, toujours et encore. Bonne matinée.
Alors que Tintin et Milo étaient partis pour une longue croisière en direction de Shanghai, ils se sont retrouvés embarqués dans une sombre histoire de fouilles archéologiques et de contrebande de drogue. Après une traversée houleuse du désert arabique, Tintin a été contraint de s'enrôler dans une garnison. Il venait de trouver des cigares marqués du signe du pharaon Kiosque dans le bureau du colonel. Lorsque découvert, il a été condamné à mort.
La suite du feuilleton Tintin, les cigares du pharaon, ce soir à 20h30.